d'avoir voilà échangé enfin tous ensemble et donc c'est Camille bon, salut j'ai
Peu
tiens
importe.
il y a Nicolas
Tiens, mais ayez-moi ton téléphone.
voilà on va donc restituer alors on aurait dû donner des noms de groupe nous n'avons pas
Et
fait et alors nous sommes aidés au porche-à-l'eau.
on voit qu'il y a un bon groupe, hein, Maria. Déjà, vraiment. Voilà, doit
Voilà.
aller.
Nous n'avons pas de loin. Et c'est un non collaboratif aussi. Hein. Et tu te fais attirer, tu as vu, tu m'énerves.
Mais nous, c'est un non-non collaboratif que nous allons trouver aussi collectivement.
Que nous n'avons
Un
moins.
non-non, c'est ça. Un non-non. Alors, pour synthétiser rapidement, pour pas non plus trop déborder, le premier point de départ sur lequel en fait on a un peu à choper, c'est la question de cette définition de projet numérique patrimonial. Et qui dit projet numérique patrimonial dit petit 1 patrimoine. On commence par la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on définit comme patrimoine à ce moment-là? Voilà, quel est l'objet patrimonial considéré? Est-ce qu'il est matériel, immatériel? La question des témoignages a par exemple été évoquée. Le rapport avec les industries culturelles et créatives, comment est-ce que cette catégorie musée patrimoine s'intègre dans une logique des industries culturelles et créatives? Ça suppose aussi définir un corpus, une collection, par exemple pour un musée. Qu'est-ce qui fait corpus? Qu'est-ce qui fait collection dans un musée? C'est valable aussi dans d'autres lieux. Et finalement, est-ce qu'on se limite à une définition ministérielle, politique du patrimoine, ou est-ce qu'on envisage des approches plus larges? En tout cas, des questions sans réponse, mais qui donnent voilà, des pistes de réponse, malgré tout. Alors, on est, c'est ça, on est le groupe approximatif.
Le
Et
petit
donc,
groupe.
et après, donc, la question du patrimoine se pose la question du projet numérique. Qu'est-ce qu'on entend là aussi sous le terme de projet numérique? Une première chose, c'est effectivement une dimension technique qui va être potentiellement des données numériques. La question de la distinction entre numérique et numérisation, qu'est-ce qu'on va considérer dans le cadre du projet numérique? Et puis après, toute la diversité des outils de visualisation, des bases de données, des outils d'études, de valorisation, de recherche, etc., de médiation, beaucoup bien sûr, qui vont être considérés dans cette idée de projet numérique. Donc voilà, des pistes en tout cas qui permettent de mieux définir ou d'essayer d'avoir une approche plus générale de cette question. Hop.
Ça fait quoi?
À partir de là, on a une définition, disons, des projets numériques patrimoniaux. L'idée de cette fresque, c'est finalement une patrimonialisation de ces projets numériques. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par ce processus de prise en compte de reconnaissance en fait de ces projets? Et puis, pour qui sont-ils reconnus? Là, on retrouve un peu les questions qui étaient posées au départ. Parmi la manière dont on va décrire le processus, c'est finalement des usages qu'on va envisager de cette fresque à venir. Je garde le terme de fresque, mais on pourra utiliser d'autres termes. C'est des usages de médiation, voire de remédiation qui peuvent être proposés, des retours d'expérience. En fait, ça peut servir à certains d'avoir des retours d'expérience d'autres collègues, d'autres acteurs. C'est aussi tout simplement une logique d'archivage, hein, des projets de médiation ou des projets d'autres types de projets, avec une logique de mise en avant de bonnes pratiques, finalement. Qu'est-ce qui fonctionne chez les uns, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez les autres, comment s'inspirer de ce qui fonctionne. Et en même temps, ça fait écho aux usages qui vont être propres. Ça permet en tout cas de distinguer ce qui est propre au musée et patrimoine par rapport aux autres domaines des ICC, par exemple. Et un des objectifs, sans doute, de cette règle, c'est aussi de se distinguer des autres ICC, de faire mettre en avant la singularité de ce qui va être le domaine du musée et du patrimoine dans le cadre des ICC. Ce qui pose, de fait, la question de on patrimonialise ces projets par cette fresque, mais pour qui? Toute la question de la patrimonialisation, c'est aussi à qui elle s'adresse. Et donc, c'est effectivement pour les musées, pour les monuments, pour les acteurs du champ, finalement, qui vont être aussi, qui vont être, voilà, partie prenante, en tout cas, pour qui ça, cette fresque va, à qui, pardon, cette fresque va s'adresser. C'est aussi pour la recherche, pour, voilà, le monde académique, mais c'est aussi, alors, pour les publics, sans doute également, mais aussi pour le ministère en tant que tel, c'est-à-dire pour montrer au ministère quelle est la particularité du champ des ICC dans le domaine du musée et du patrimoine. Voilà, pour cette question
Sur la patte du musée.
de la patrimonialisation.
Téléphone.
Et une fois qu'on a envisagé cette question du processus de patrimonialisation par cette fresque, c'est finalement comment est-ce qu'on la construit, quelles sont les caractéristiques, les éléments qui vont être pris en compte. Alors, un élément important, c'est le choix du vocabulaire. Finalement, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord sur les thésauries, sur les termes qu'on va utiliser? Est-ce qu'il faut tous les définir? Est-ce qu'on prend en compte aussi la plasticité des termes qui évoluent dans le temps, mais qui évoluent aussi dans les pratiques que chacun va avoir des propres termes? Comment est-ce qu'on construit une forme de tronc commun sur lequel tout le monde s'accorde ou pas sur les termes employés, ou au contraire, on se laisse une marge de liberté, notamment dans le remplissage futur de quelque chose qui ressemblerait à une base de données, où finalement chacun peut aussi le remplir à sa manière et avoir son propre usage de certains termes, ce qui pose d'autres difficultés. Une fois que cet accord-là est fait, quelles sont les caractéristiques qui vont permettre d'identifier les projets qui vont être intégrés dans cette base de données? Eh bien, il y a d'abord des caractéristiques techniques. On va identifier des appellations génériques, enfin, une autre forme de technicité du projet. On va identifier des publics à qui s'adresse le projet qui a été proposé, des métiers, quelles sont les différentes parties prenantes et dans tous les champs d'activité, ce qui renvoie à la lueur des acteurs, à Ariane, et comment est-ce qu'on peut faire le lien entre cette fresque d'un côté et Ariane de l'autre? Ariane n'est-elle pas suffisante? Voilà, c'est une question qui a été posée. La question de l'historicité de la période, quand est-ce que le projet a été développé et comment tout l'enjeu d'un projet, c'est bien qu'il a une durée, une temporalité, et donc comment est-ce qu'on inscrit cette temporalité? Comment est-ce qu'on va documenter dans le projet à la fois les données qui sont produites, mais aussi la documentation de ses propres données? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'intégrer des données potentiellement d'un projet, mais c'est aussi comment ces données ont été construites, par qui, avec quel objectif. Comment est-ce qu'on identifie aussi les objectifs du projet et la manière dont cet objectif va être mis en œuvre. Ce qui nous fait aboutir à en tout cas un point central, enfin me semble-t-il, mais c'est autre membre du non-projet. Voilà, du non-mot. Donc les autres non-mots pourront approuver ou pas, mais c'est la question du stockage, en fait, de la donnée. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup revenu, et de la question de son stockage, de son archivage, du choix, du tri, de la sélection, de finalement qu'est-ce qu'on met dans les données. Alors c'est au-delà de simplement dans le cadre de cette fresque, mais c'est plus globalement d'un projet numérique patrimonial. Qu'est-ce qu'on conserve en termes de données? Comment est-ce qu'on considère ces données-là? Dans des logiques qui sont parfois des logiques de l'open source, de l'open data, quand elles sont intégrées dans des politiques qui d'une certaine manière, obligent à aller dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on donne accès aussi à ces données? Quelles sont les licences? Quelles sont les possibilités que vont avoir les usagers d'accéder à ces données? Et finalement, l'archivage qui va en être fait, comment est-ce qu'on identifie un plan d'archivage? Comment est-ce qu'on arrive à donner une certaine formalisation, une normalisation, finalement, à la manière d'archiver ces données, ces documents. Voilà pour une synthèse un peu rapide. Si certains veulent compléter ou ont des choses à rajouter, qu'ils n'hésitent pas. Élise, si tu as quelque chose à
Non, il me semblait qu'il y avait un point en ouverture, mais elle semblait assez importante. C'était l'idée de, non pas catégoriser par technique, mais par logique de médiation. C'est ce qui est sorti en grande discussion. Et quand ce point-là, en fait, de définir aussi leur projet en termes d'objectifs de médiation, va être une façon de regarder autrement les choses. Ils étaient très bien.
Alors,
Et je
c'est pas
pense que j'ai un peu la pression. Je mise tout sur le nom, donc nous sommes les Léopards à l'arrière. Voilà, ça c'est déjà, on est sympa. Vous passez après Nicolas, vous passez au tout début. C'est pour ça que je vais vous rendre juste à mon groupe. Donc nous, on a répondu aux questions en fait, qui étaient posées. Donc pourquoi faire? C'était la question première. C'est vrai que c'est intéressant parce que nous, on a changé de vocabulaire. On parlait beaucoup en termes de recension. Donc, on s'est dit, on fait une recension. On n'a pas trop parlé de test ou de recensement. De recensement. Donc, on s'est demandé à quoi pouvait servir ce recensement. Concrètement, a été évoquée l'idée que pour les PCS, par exemple, des établissements, c'était utile. PSC, ça, hein? On en vient. De l'établissement, c'était utile de penser à voir d'où on vient, où on est et où l'on va. Donc, très grossièrement, pour avoir une vraie réflexion dès la genèse d'un PSC. Et pour la recherche, pour parler aussi des problèmes de mémoire, de l'impossibilité à faire des généalogies, des filiations, un état de la race et de l'unité. Donc, en termes très concrets, ça peut apporter quelque chose, ce recensement. Une base d'idées pour la partie créative, bien sûr, donc s'inspirer de ce qui a été déjà fait et ne pas réinventer la roue systématiquement. D'un point de vue recherche, je pourrais identifier aussi les matchs, je cite toujours, entre un projet de transcription, enfin un projet de médiation et un projet de recherche, pour voir aussi qu'est-ce qui peut être mis en parallèle, mis en dialogue, et aussi pour archiver des questionnements, pourquoi pas. Et également, ce qui est commun aussi aux deux milieux et la formation étudiante pour bien sûr former des étudiants et des professionnels futurs pour répondre à la question quand est apparu le numérique au musée, ne serait-ce que ça. Et de manière générale, ça servirait donc à faire preuve d'humilité et de permettre de porter un regard critique sur l'innovation. Donc ça, c'était pour les objectifs du projet qui est censé nous animer pour l'humain à venir. Et qui permettrait de pallier aussi deux choses. Alors même si l'idée de ce recensement n'a pas objectif de faire un archivage complet et exhaustif, ça permettrait de pallier quand même le turnover assez régulier qu'il y a dans les institutions. Donc des gens qui changent de poste, qui quittent leur poste, qui n'ont pas eu le temps de tout archiver, qui ont des années de retard donc sur l'archivage. Qui archive d'une manière, mais pas de la même manière que le collègue d'une autre institution, etc. Donc, une mémoire qui n'est pas tout le temps systématiquement conservée. Et il y a aussi une trop grande quantité de projets, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a trop de choses qui se fait. De toute façon, ça doit être fait par un nombre réduit de personnes, puisque ça a été évoqué. Des fois, il y a une ou deux personnes chargées de l'archivage dans des grosses structures. Et donc, en fait, ne serait-ce que le faire de manière collective pourrait être, est une solution. Donc ça, c'est sur les objectifs. Après, on a bien sûr parlé des critères. Le recensement, on le fait comment? Alors, c'est la question des critères de la quoi on... C'est pas les méta de mots, en fait, qu'on associe au projet pour identifier ces projets, pour faire des recherches multicritères également. Alors, je pense que ça, j'en cite quelques-uns parce qu'on peut mettre 1000 critères sur un projet. Je pense que c'est très, très long et... ouais, c'est quand même on peut les prendre de plein plein sens différents. Donc les technologies utilisées, on l'a dit, la durée de présentation au public, le titre d'usager, donc le titre du public, le territoire dans lequel est implanté le projet, est-ce que c'est une production, qui sont les acteurs, une coproduction, où sont les acteurs, le contexte de production, est-ce que c'est une exposition temporaire, est-ce que le projet a été fait pour en cas d'une refonte ou d'une réouverture d'institution, est-ce que le projet a évolué, donc, du coup la durée d'utilisation, de vie du projet. Est-ce qu'il y a eu panne ou abandon? Et ou abandon de nantes? Il a été évoqué l'idée d'associer au projet un certain nombre de documentation, enfin de documents, donc associer une documentation, les cahiers des charges en l'occurrence, mais aussi les enquêtes des publics si elles sont existantes, ou encore des témoignages oraux qu'il s'agirait de recueillir. Des photographies en usage, également les processus de fabrication, pourquoi pas, parce qu'il a été dit, et c'était aussi intéressant, que sur le long terme, d'être il y a 20 ans, on faisait des choses avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui, pas avec les mêmes technologies, et donc en fait, on pourrait faire tout aussi efficace avec moins de choses si on savait comment les choses étaient fabriquées avant. Et bien sûr, identifier si le projet est raté ou non. En termes d'objectifs, le succès du projet, est-ce que ça peut être évalué sur une base de données, tant sur un recensement? Est-ce qu'on peut évaluer alors c'est bizarre, juste pas l'efficacité, les bénéfices. Est-ce qu'il y a une manière de noter sur une base de données TripAdvisor des projets de médiation? On ne sait pas, mais ça a été évoqué. Et l'autre critère qui nous semblait aussi intéressant, mais qu'il n'était pas possible de lister de manière non réflexive, c'était le critère de l'objectif de médiation qu'on pouvait assigner au projet. Et donc toute la difficulté, il nous semblait, c'était de définir, en arriver à formaliser des objectifs de médiation auxquels répondait le projet, très précis et pas génériques, parce que dans un appel d'offres, dans, je sais pas, dans certains types de documents plutôt publics, on va dire voilà, toucher public ou favoriser la découverte. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup trop génériques. Et bien, quels les projets pourraient répondre, mais d'arriver à délimiter, de définir un certain nombre d'objectifs très précis, donner des éléments de contexte, engager une posture d'observation, visualiser un état d'origine, voilà, lister ce genre de d'objectifs. Donc ça, c'est un travail collaboratif aussi, hein, qui est pas très factuel, hein, qui demanderait à être fait ensemble. Et avec la possibilité de ne choisir qu'un nombre très réduit d'objectifs, parce que sinon on peut se dire, oui, mon projet fait tout. C'est, mon projet est numérique, il est magique, il fait tout. Donc de choisir des critères bien précis. J'ai encore 5 minutes, 2 minutes, une minute.
Tu as.
Alors il y a juste des quelques points qui ont été. Je vous parle de notre solution technique après. De la proposition, mais sinon, il y avait des choses qui m'ont été énoncées, mais qui ne rentraient pas trop dans mes cases, mais faut pas tout à fait des biais, mais bon, qu'il fallait prendre en compte, mais comment on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais qu'il fallait faire attention de sortir, lorsqu'on sortait l'outil numérique de son contexte, de son expo, de sa collection, de la Scéno Fascines, qu'il fallait faire attention aussi de sortir le projet en lui-même des autres projets numériques, des autres outils de médiation, l'innovation dans l'écriture des cartels, l'innovation dans le domaine du son, les évolutions techniques aussi qui se fait dans ces autres médiums-là, qui ne sont pas catégorisés comme des projets numériques de médiation et qui seraient intéressants à mettre en discussion. Le fait de sortir des projets, des évolutions générales de la société, des évolutions aussi sur les réflexions professionnelles sur la médiation, en part des politiques culturelles, le contexte d'émergence d'une nouvelle structure, enfin en fait tout ce qui est lié au contexte. On avait un peu du mal à se dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'intègre, donc ça semblait important de le dire. Est-ce que c'est un projet, est-ce que le projet numérique en question est un projet global dans une expo, une scéno, ou un projet qui sont complètement des électrons libres, en fait c'est vraiment lié au contexte, au état d'égalité. Développer plus. Et au regard de ces discussions, on se disait qu'en fait, le format, alors est-ce que c'est une fresque ou pas, on avait l'air de dire qu'une base de données et littéralisée répondrait le plus simplement et efficacement à ce projet. Et par contre, l'idée de faire quelque chose dans d'exhaustif, on sait que c'est pas possible, mais de pas délimiter dans le temps nous paraissait peut-être pas forcément faisable. Et on disait que c'était bien de délimiter les bornes, en fait, alors de la proto-histoire des outils numériques jusqu'à aujourd'hui, mais ça peut être 70-2020, et de se délimiter à ça, parce que de toute façon, ça n'a pas été fait, donc ça sera toujours utile de le faire. Et ça nous donnerait, ça me permettrait de limiter et de pas espérer qu'une base de données ou un site internet ou n'importe quel outil qu'on fasse, une fresque, une frise, n'ait de sens que parce qu'elle est alimentée continuellement, sauf que les projets, ils ne vivent pas tout seuls, il faudra quelqu'un qui stimule une communauté, etc. Donc, c'est un travail assez compliqué de vouloir un outil évolutif. Donc, on s'est dit, pourquoi pas dénoter une borne et mettre en place des éditatons en profitant du format pour territorialiser ses actions, faire des enregistrements au beau, etc., enfin, les entretiens quand on parlait. Donc, on s'est dit très concrètement sur un contrat de 2 ans, à hauteur de 1 par mois, ça fait 24 dictatons. Sur une période très, très serrée de 70-2020, on peut arriver à avoir déjà une base de données qui soit très, très importante, qui marche très, très bien, enfin, qui soit conséquent, qui apporte plein d'informations, qui soit très bien faite. Et après, voir aussi comment on peut passer de l'outil numérique, de la base de données, à éventuellement une publication de référence sur les 50 dernières années. C'est ça qui est l'entrée, donc ce sera self-paced. Mais voilà.
Regarde, c'est peut-être pas drôle.
Non, mais voilà, comme souvent, on a lu ça pour faire ce travail-là. Pédier soi.
Oui, je
sais. Oui. Est-ce qu'elle est prête
des tatouages? Ça va être touché les cul.
Pas d'une main de. Allez, pas. Non, mais on a joué très bien aussi. J'aime beaucoup le côté boarding en temps, mais juste de 70 à. Et quoi?
Ben, allez. Tu veux? Oui.
Ben, les chiffres de la côte chauvée, ça va. Hein, c'est...
Bah. Ok.
Non, mais sans vouloir être exhaustif, mais peut-être que, en fait, si on est.
Bon. Je vais juste pas. Il est parti, au secours, Gilles. Où est-ce qu'il se passe?
Ça n'a pas l'air branché. Ah, là, c'est mieux.
En fait, c'est juste pour la toute fin. Enfin, en tous les cas, merci, parce que je pense déjà ça va permettre de poser des bases que vraiment, enfin, on en parlait, enfin, mais du coup, ça serait vraiment bien que ça puisse, dans les 6 ans, enfin voilà, des tiers, alors ça sera peut-être 6 ans de quantité d'éditathon, d'éditathon. Voilà, mais du coup, enfin, moi, je pense, il semble, en tous les cas, moi, je voudrais tenir à ce que, voilà, ça puisse, Cécile, aboutir à la paper. À 6. Si, si, ouais, c'est 6 ans, ouais. Donc, et simplement, parce que la journée, en fait, était un challenge, je pense, enfin, ce que je disais à Thomas un peu en off, c'est, alors, c'était un challenge pour les intervenants de ce matin de résumer en 20 minutes 50 ans. Et ça a été un challenge là aussi, par la fois, de dire c'est quoi les projets numériques. Enfin, en fait, on a lancé vraiment, on a été un peu fort en fait, sur cette première journée mensuelle. On a un peu challengé sur des points un peu impossibles à faire. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Enfin, moi, PK, je suis assez content du déroulé. Et simplement, sur la toute fin de la journée, ce qu'on a appelé les perspectives, ben, évidemment, tu auras donc tout un principe de recensement, enfin voilà, de revalorisation à l'issue, il y a des captations, donc tout ça, ça sera évidemment mis en place par revenir sur le de site, mais simplement pour vous donner quelques pistes de la suite. C'est-à-dire que là, on lance, enfin voilà, on entame, on fait 6 ans de réflexion dont, au champ du secteur, donc musée et patrimoine. Les prochains rendez-vous déjà fixés, c'est mon deuxième journée d'accélération qui arrivera le 25 mars, en fait, étendre le rôle social du musée et donc il va traiter à la fois des enjeux de transition écologique et sociaux aussi me semble-t-il. Il y a le Révangile qui est du coup il y aura une deuxième journée qui va être sur 2 jours on a avec le GIS on sait quoi le GIS c'est IA tu veux
ça avec le génie, le groupe de recherche le GDR IASIS, IA traitement de cinéma du CNRS, c'était ça, une journée en partenariat avec eux, une journée plus sous format conférence avec un appel à soumission, les articles seront évalués, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils font classiquement. Et donc, on aura une deuxième journée plus sous ce format de ICAR, des tables rondes, un peu comme genre boire plus de table ronde, qu'est-ce que le lendemain nous c'est
ensuite, on prévoit, en lien avec le musée national de l'Ochi, une journée, donc musée et données. Donc ça, c'est vraiment pour les journées qui sont fixées. Mais on a aussi 4 autres journées d'études en réflexion. Une en lien avec le secteur théâtre sur résidence dans les lieux culturels, résidence à la fois recherche, résidence dans les monuments, mais pas voilà, qu'est-ce que ça te relie quels apports pour les uns et des autres. Potentiellement une journée, alors on dit gâte, totalement approximative, mais sur les questions de rénovation des musées, parce qu'on constate voilà, qu'il y a énormément de projets de rénovation des musées et qu'il y a aussi un chantier sur ce point-là. Une autre piste en lien avec le programme TEMIS, sur l'évolution des indicateurs des études de public, là aussi avec les questions de billetterie, il nous semble que ça constitue un enjeu. Une autre piste dont on a moins parlé, mais du coup sur les petits musées potentiellement hors 2028, et vous dire, puisque c'était vraiment ça l'idée des perspectives, que si vous avez une idée de journée d'études, un projet de journée d'études, il ne faut absolument pas hésiter à nous solliciter, nous en parler, puisqu'en fait, il y a des journées d'études qui peuvent être labellisées, PEPR, donc il y a un appui, en fait, on peut être fait sur cette journée. Il y a comme contrainte que ça se passe en dehors de l'université, en dehors de l'espace à 4 délignés, si je peux prononcer ça comme ça, qu'il y ait une captation qui soit faite. Et voilà, vraiment, en tous les cas, ça touche au secteur musée et patrimoine. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter sur les 6 ans. En fait, on ne tenait pas, nous, à être proactifs sur les idées. Enfin, c'est très bien aussi qu'il y ait d'autres pompées, mais il y a d'autres questions et à ce moment-là, qu'elles puissent être valorisées. Et j'en tiens là. Dernière slide que Swabek vous a présenté ce matin. Pour continuer d'être en contact, il y a celui au site, justement, Ariane, qui permet de recenser les institutions, qui permet de recenser les acteurs, qui permet de recenser les chercheurs. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle Musée Patrimoine. Je finirai sur ce point-là en remerciant beaucoup Renaud qui nous a Voilà. Et écouté et traduit graphiquement tout au long de la journée. On dit
à force, il commence à nous. Expert, c'est ce qu'on va dire. Il sait ce qu'on va dire, un peu.
Et du coup, on va attendre. N'hésitez pas à accorder des seins. Est-ce qu'il y a d'autres je vais remercier Thomas, Gif, coordinateur du secteur, l'ensemble des antennes donnant, Univers Sciences. Et je suis très, pour ma part, heureuse de ce lancement qui augure de belles années pour la suite. Il y a plus. Bon.
Ce qui est hanté. Il s'est bien, vous voyez. Pendant.
Les 25 ans, si je. Mais avant 5 minutes, avant.
Oui, malgré le retard.
Ouais. C'est bien. Je sais pas qu'il y en a un de la ville là. Ça me prend. Comment c'est possible là?
C'est le temps, l'air.
Correct.
C'est le centre de repas, c'est brocante.